Samuel Ndiaye Obaker est l'un des premiers chrétiens et pasteurs de la partie francophone de notre pays. La seule évocation de son nom rappelle des décennies de vie bien accomplie, des décennies de ministère apostolique dans le pays profond et à l'étranger. En fait, la seule évocation de son nom est étroitement liée à la naissance du pentecôtisme au Cameroun. Que ce soit à l'ACTC, l'AEPC, à la vraie Église de Dieu et à l'Église de Dieu, il a laissé ses marques. 18 ans après sa mort, nous avons jugé opportun de lui rendre hommage. Dans le grand reportage qui suit, Benjamin Yakana parcourt en quelques minutes la vie d'un prédicateur présenté comme un érudit de la parole de Dieu.
Né le 9 août 1928 à l'hôpital de Sakbaïmi, l'actuel Sanaga Maritime, le cinquième enfant de la fratrie des 12 et surtout le deuxième garçon de la famille, est exceptionnel. Il fut bombardé du nom de son père Samuel Ndiaye Obaker, un pasteur de la mission protestante américaine MPA, appelée aujourd'hui Église presbytérienne camerounaise. Il était manifestement l'exaucement des prières de ses parents. Son CV, tel que dressé par son neveu Théophile Obaker dans le livre Samuel Ndiaye Obaker, un destin pour Dieu où le mystère de la parole donnée est fort et éloquent. Moniteur des écoles protestantes américaines, professeur de langue au collège évangélique de Libamba, moniteur de classe exceptionnelle des écoles principales d'État, directeur des écoles principales d'État, entre autres. À côté de ce bagage intellectuel, se greffe un zèle pour Dieu développé depuis le collège évangélique de Libamba. Révérend Alain Ruben Gouet, écrivain.
Il était donc responsable de la JAPE qui faisait partie de ce qu'on appelait l'Église presbytérienne américaine. C'est donc ainsi que Obaker, qui est donc ce responsable et qui est bouillonnant en lui de voir une jeunesse qui s'épanouit dans la foi, dans la parole de Dieu, parce qu'on ne parlait pas de la foi. Il aimait la parole de Dieu et puis voulait voir une jeunesse chrétienne s'épanouir. C'est ainsi qu'il va commencer à partager la parole au collège évangélique de Libamba. Un an après, il va démissionner du collège évangélique, mais laissant une soif. Il démissionne pour être un instituteur dans les écoles publiques du côté de Baham.
Malgré quelques divergences dans la façon de présenter les faits, toutes les personnes interrogées s'accordent sur le fait que sa véritable rencontre avec Dieu se déroule alors qu'il est en poste à Baham. Docteur Sylvestre Mutumba.
Dans les années 54, Dieu a commencé à lui parler, lui et sa femme. Il était fils de pasteur, il était président de la jeunesse de son église, l'église presbytérienne américaine devenue EPC. Il était très zélé, il était enseignant de formation et il se trouve à Baham, à l'ouest. C'est à partir de là que Dieu le saisit au cours de la retraite de Pâques. L'année 54, et après ce jeune homme, parce que à ce moment-là, il a environ 20-25 ans, ce jeune homme revient à son idéal natal, à son église locale, à sa jeunesse, mais ce n'est plus le même. Il est touché, il a commencé déjà par la conviction du péché, confessé sa mauvaise vie de jeune chrétien, mais débauché, mondain, en un mot, et ça a commencé à toucher la jeunesse qu'il dirige.
Révérend Alain Ruben Gouet.
Il est père de deux enfants. Mais à chaque fois qu'il fait un enfant, cet enfant décède. Et en 1954, il est toujours sans enfant parce que ses deux premiers enfants sont morts. Pâques approche. Et il se sent triste, très abattu. Généralement, on sait, la veille de Pâques, c'était des veillées. À ce jour, lui, il ne pourra pas aller à la veillée parce qu'il est triste et abattu. Il profite donc comme ça pour fouiller dans ses affaires. Il trouve un manuscrit de son feu père qu'il traînait avec lui, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de lire. Et ce manuscrit parlait de l'œuvre parfaite de Christ. Il est étonné par la profondeur de l'enseignement. Et puis, il se demande, mais c'est vraiment comme ça que ces choses se sont passées? Parce que là, son père parlait de la substitution. Christ qui a pris notre place sur la croix. Il est mort pour nos péchés, il a pris notre place pour que nous nous prenions sa place auprès de Dieu. Donc il est en train de s'interroger sur ce message. Il entend clairement la voix de Dieu lui dire, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris votre place, j'ai été jugé pour vous, j'ai été condamné pour vous, j'ai été crucifié et maudit pour vous, afin que vous, vous soyez bénis, vous soyez saints, vous preniez ma place pour me représenter au sein de ce monde. Mais vous fêtez une Pâque complètement vide. Pendant qu'il écoute cette voix, Il s'effondre, il se met à pleurer. Sa femme qui l'entend pleurer rentre dans la chambre et commence à l'appeler. Alors elle appelle, il ne répond pas. En fait, il n'est pas en train de l'entendre. Elle est d'abord étonnée et puis elle va appeler et le secouer. Il revient donc de là où il était. Il se rend compte qu'il pleure et il partage avec son épouse le message qu'il venait d'entendre. Et les deux vont se mettre à genoux. Ils sont là autour de 19h. Ils se mettent à se repentir.
Pasteur Benjamin Kissot.
Samuel Diobaker avait été un enseignant. Il était allé à l'ouest comme instituteur et arrivé là-bas. Il a rencontré le Seigneur d'une manière spéciale. Ne pouvant pas aller au culte les dimanches parce que le culte se faisait en langue vernaculaire. Et là, il dit à son épouse, restons à la maison ce dimanche et lisons la Bible. Et ils ont tellement lu la Bible chapitre après chapitre, sont fatigués, sont allés se coucher. Et pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur est venu le toucher en disant qu'il sorte de la chambre. Il pensait que c'est son épouse qui voulait s'amuser avec lui. Il a dit non, je suis fatigué. Et deux fois de suite, après, il s'est rendu compte que non. Il s'est levé et l'ange du Seigneur lui a donné une Bible et il a avalé la Bible. C'est comme ça que cet homme de Dieu entre dans une relation extrêmement profonde avec Dieu.
Le feu allumé dans la région de l'Ouest embrasera très vite le littoral avec des effets immédiats. Révérend Alain Ruben Gouet.
Ils ont commencé à partager ce message et ils descendent donc à Edea. Ils sont là-bas. Ils vont continuer de partager ce message qui transforme les prostituées, ce message qui transformera jusqu'aux sorciers, des magiciens qui viendront déposer leurs choses et être brûlés. C'était instinctivement. Donc ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient.
Une fois dans le littoral, Samuel Diobaker fera la connaissance d'un autre groupe composé de jeunes gens issus de l'UEBC. Ce groupe est chapeauté par André Mbassikouo, qui travaille par ailleurs dans le secteur du pétrole. Pasteur Benjamin Kissot.
Ces jeunes n'étaient pas satisfaits de ce qui se passait dans leur culte. Et après le culte, ils se retiraient pour prier. Et un jour, ils ont eu une visitation de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont été encadrés par l'apôtre Mbassi, qui était un aîné, ils étaient des jeunes. Et ils ont donc commencé à chercher la face de Dieu. Et un jour, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit qui est descendu sur eux. C'est comme ça que ce mouvement se met à prospérer. Au Baker, qui se trouve à Bomonon, c'est-à-dire à peu près à une vingtaine de kilomètres, une dizaine peut-être de Douala, apprend aussi qu'il y a un mouvement là. Il se rapproche donc de l'apôtre Mbassi et ils commencent à travailler ensemble. Mais très vite, il y a une dissension. Le pasteur Obaker, dont lui, il se retire sur Edea et dirige une grosse équipe apostolique où il y a un certain nombre de personnes. Et le pasteur Mbassi, lui, il reste avec les petites équipes qu'il dirigeait à Dedo. Ils fondent cette église qui est la première église pentecôtiste du côté francophone.
L'histoire de la rencontre entre les deux groupes est aussi précédée ou émaillée de quelques insolites. Révérend Alain Ruben Gouet.
On l'a fait donc de Baham pour Bomonoba Bengue, du côté du littoral. Et il décide, avec le petit groupe qu'il avait formé, mais pour continuer de prêcher l'évangile librement et pouvoir quand même réunir les gens qui se donnaient au Seigneur, il se décide donc de demander une légalisation de l'association qu'il créait, la Croissance Chrétienne du Salut. À ce moment, on a l'UPC qui prévaut dans la Sanaga maritime. On confondra donc sa demande à la demande de légalisation d'un nouveau parti politique. On décide de les arrêter. D'ailleurs, Abednego, c'est lui qui portait le document à la préfecture, il sera menacé. Il va s'enfuir et on envoie des personnes pour perquisitionner la maison d'Obaker. On va tout casser, on va mettre tout sens dessous à Edea. Il va donc s'enfuir pour résider du côté de Douala, ce qui lui permet de descendre à Bomonoba Bengue pour enseigner. C'est donc comme ça que, étant à Douala, il prêche l'évangile à Nebel un jour et il va rencontrer ceux du côté de Mbassi, on est là en 1958, qui sont en train de prêcher le même évangile, le même message que lui. Et c'est donc ainsi qu'ils vont avoir une entrevue, ils vont se connaître, ils vont donc décider de fusionner et de faire corps pour que le message se répande facilement dans le pays.
Tout en disant un mot sur l'itinéraire de Samuel Diobaker, son neveu révérend Théophile Obaker lève le voile sur la rencontre à la limite miraculeuse entre le groupe de Samuel Obaker et de André Mbassikouo.
Du côté de la mission protestante américaine, où il a fait ses marches, il est président synodical de la jeunesse d'action protestante évangélique, qui abat aussi un travail de sable d'évangélisation sous le label de la croisade chrétienne du salut. Dieu faisant ces choses parce qu'il a un dessein qu'il veut accomplir pour le Cameroun, il fait partie de l'école principale de Baham pour l'école principale de Bomonoba Bengue, où au cours du retour à la fin de sa journée, il rencontre les apôtres Joseph Benam et Jean Moussoungue Lumwanjou. À l'issue de cet échange, il se rend compte qu'ils ont les mêmes aspirations. Ils vont le conduire à leur base où il va rencontrer son alter ego, l'apôtre André Mbassikouo. À l'issue de cet échange, quelque chose de particulier va se passer. Samuel Diobaker va décidé de démissionner de sa fonction de directeur du corps principal de Bomono Bambenge pour se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu naissant.
Le contact entre les deux a donné naissance à l'église de réveil en zone francophone. Révérend Théophile Obakaire, une fois de plus.
La rencontre de ces deux hommes a permis à l'église de naître, chacun étant dépositaire d'un ministère particulier à la rencontre de l'autre, dont la complémentarité avec l'autre va être le levier sur lequel Dieu va bâtir l'église de réveil. Alors, leurs vocations ne sont pas conjoncturelles. Elles sont attachées à une trajectoire qui tire sa source dès leur géniteur de père.
Presque tous ceux qui l'ont connu et que nous avons approché ont une histoire à raconter à son sujet. Pasteur Paul Ndjoumbé.
Je vais dire que nous avons d'abord des relations familiales, puisqu'il est le grand frère à mon père adoptif, Obake Théophile, qui a épousé ma mère. Par devers cette union, je ne pouvais que connaître la famille. Puis en 60, je découvre l'apôtre Obakaire, qui était encore trop jeune, petit. Je ne pouvais pas avoir une très grande lucidité, mais en 63, beaucoup plus. Et là, il est directeur à l'école publique de Bomono, en même temps pasteur. Habitant de Douala, il y allait tous les matins, revenait tous les soirs sur une moto rouge. Et nous avons été comme ses enfants à la maison.
Certains pasteurs interviewés n'hésitent pas à appeler l'apôtre Samuel Diobaker papa, apôtre Dieu donné à Bogo.
C'est lui qui m'a annoncé l'évangile, afin de donner ma vie au Seigneur. Deuxièmement, après ce moment-là, c'est lui qui m'a ministériellement formé, qui a fait que je suis resté plusieurs années avec ce papa et qui a moulé entièrement ma vie. D'ailleurs, je suis arrivé là dans des pays étrangers où il m'envoyait souvent. Quand je prêchais, les gens disaient, c'est mon père, ça c'est le fils d'Obakaire. Donc je veux dire que Dieu m'a donné la grâce, il m'a accordé la grâce, le privilège, je dirais, vraiment d'être auprès de cet homme-là. Et je bénis vraiment le Seigneur par rapport à cette grâce.
Pasteur Jeune Makembe.
L'apôtre Obakaire est un père pour moi parce que c'est lui qui m'a imposé les mains lors de mon ordination. Je connais l'apôtre depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mais n'étant pas de sa mission, moi étant d'une autre mission, parce que lui, dans son apostolat, il faisait un effort de se rapprocher des jeunes. Et nous sommes au nombre de quatre qui avons passé les derniers jours avec l'apôtre Obaka, à savoir l'apôtre Dilona Boro, le patriarche Mbelanoé et l'apôtre Zambo. Nous quatre, nous avons connu des derniers moments avec lui quelques 10 ans avant sa mort. Quand il tombe malade ici, sa bouillie pour aller à l'hôpital, c'est ici qu'on faisait sa bouillie parce qu'il est mort ici à la Quintini. Il est un père pour moi. Donc, l'apôtre a été un très bon enseignant pour nous autres et c'est pour cela que nous sommes un modèle.
Pasteur Anatole Numessi.
L'apôtre Samuel Obakaire est pour moi un père. Ayant reçu Jésus en 78, le Seigneur m'appelle dans la même année à venir à son service. Et à l'époque, nous avions ce qu'on appelait les régions ecclésiastiques. Samuel Dalle était le responsable régional du centre. Et quittant les pieds de mon père spirituel, Samuel dit, je suis venu directement à la région, c'est-à-dire auprès de Samuel Dalle. Samuel Dalle va directement m'envoyer à l'école publique à Songelan. Alors, c'est à Songelan que je fais la connaissance de mon papa Samuel Obakaire. Du moins, je ne veux pas dire que ce n'est que cette année-là. C'est l'année où je suis parti plus près de lui, puisque nous restions à l'école publique. Institut biblique de Songala, qui était dirigé par lui-même.
L'apôtre Ndjambe Epele, son voisin au quartier Nkomondo à Idea, l'a connu à la fin des années 60 à Kribi.
Je rencontre Obakaire en 1968, j'étais trop jeune encore, j'avais environ 17 ans, j'étais protestant et c'était lors d'une évangélisation qu'ils ont faite en plein air. Bon, alors là j'ai cru au Seigneur, je monte donc à Idea et je suis suivi, encadré par l'apôtre Obakaire. C'était comme ça qu'on l'a appelé à la fin des jours. J'ai vécu avec lui tout le temps, j'ai fait des constructions, des travaux avec lui, à savoir un de ses bâtiments dans son camp ici, résidence, et puis le dortoir à Songelan, qui est l'école biblique. Ouais.
Homme de caractère, homme de principe, tout le monde semble le dire ou le reconnaître. Apôtre Salomon Magno.
Quand il reçoit de Dieu, aller à droite et à gauche, il ne changera pas. S'il faut qu'il change, il faut que c'est encore Dieu qui lui parle. Voilà l'une des choses qui m'a influencé. Deuxièmement, il était tellement attaché à la prière. Quand dans cette vision, ça c'est moi maintenant, quand je le voyais dans une vision, je vois qu'il est en train de prier ardemment. Des fois, la sueur coule. C'est comme s'il s'oublie lui-même. Je sais que là, Dieu me montre le chemin, mais physiquement, il était un homme criminel. Troisième chose, comme je venais de vous dire, quand je lui parle, puisqu'il a parlé de la sanctification, l'abandon de péché, ne viens pas jouer auprès de lui pour qu'il revienne encore dans le mal. La démission qu'il a fait, parce qu'il était quelqu'un de l'État et qu'il avait été choisi pour aller en Europe, revenir ici, le premier inspecteur des écoles. C'est moi qui me suis imaginé que s'il partait, c'est qu'au rang des ministres, autant d'Ahidjou, il allait être ministre de l'Éducation. Puisqu'il devait sortir, il a démissionné et l'État a calé son argent, ce qu'il a gardé en banque, ils ont calé. Que Aubaker se promenait des fois avec les chaussures trouées, les fesses, pas seulement les coutures, les doublures, des étoffes qu'on a marre pour qu'on ne voit pas ses fesses. Mais l'évangéliste, il n'avait pas de soucis. Il était content de cette vie. Donc il a appris la vie de sacrifice avec joie.
Pasteur Paul Djoumbé.
C'était un homme de caractère, c'était un homme qui avait justement un rang, une place très élevée. Et tous ceux qui ont été ici, qui ont même été pasteurs, avaient beaucoup de considération, de respect pour cet homme. D'ailleurs, qu'ils appelaient le propriétaire de Dieu. Vous comprenez que si on voulait savoir quelque chose de Dieu, on allait vers lui. Et tout ce qu'on voulait faire, il fallait se référer. Il était comme un repère.
Pour certains, l'apôtre Samuel Dié Aubaker n'était pas un homme ordinaire. Docteur Sylvestre Mutumba.
C'était pas un homme ordinaire. Pour moi, tout ce qu'il disait, ça touchait, c'était une lumière, c'était une puissance, ça renversait. Et auprès de lui, il y a la conviction du péché, sans même qu'il parle. Il y a une grâce, quelque chose qui sort de lui. C'est un homme, quelque temps avec lui, il y a quelque chose qui reste en lui.
L'apôtre Joseph Benham, chrétien de la première heure, ne met pas les gants pour parler du caractère de l'apôtre Samuel Dié Aubaker.
Je peux vous dire un seul mot, papa Aubaker était dur. Le mot, quand je vous dis que dur, vous pouvez commencer à imaginer si on appelle quelqu'un qu'il est dur, dur du caractère. Dans le porno, on pensait que c'est pour nous mater, mais c'était pour nous former aussi. Je sais qu'il était le caractère dur, mais bien formé. Il était bon pour enseignement. Il maîtrisait bien. Quand il vous enseigne, tu sens, tu comprends. Sauf que j'ai dit, il avait un caractère difficile.
Une rigueur qui, somme toute, visait à former le caractère chrétien du pasteur. Le pasteur Anatole Noumessi se souvient encore de son séjour à l'Institut biblique de Songhelan, créé par Samuel Dié Aubaker vers Edea.
Assez strict pour former le caractère chrétien du pasteur. Par exemple, nous devions nous lever très tôt le matin pour nous rendre au bas-fond, puiser de l'eau dans les seaux, venir remplir les fûts. Et cette eau devait aider à faire la lessive, à faire la cuisine, à nettoyer les salles. Rude parce que nous devions aller nettoyer une cacaoyère qui était certainement pour notre père, mais c'était une façon de nous former au travail manuel. Nous devons chaque matin nettoyer le grand camp, tailler le gazon, nous devons aller semer le tarot, les bananes plantains. C'était assez rude, mais pour former l'homme de Dieu, à ne pas seulement être un porteur de la Bible, mais aussi un travailleur manuel, aux hommes de Dieu.
Certains de ses contemporains sont encore allés plus loin en le qualifiant de propriétaire de Dieu. Les origines de ce surnom particulièrement osé avec le docteur Sylvestre Mutumba.
Ce nom est venu parce que non seulement l'enseignement qu'il donnait, mais ses principes de vie. Chaque fois qu'il arrivait dans un milieu, il disait ce que pensait. Il était en somme comme un prophète parfois. Donc, chaque fois qu'il venait, chacun se disait, c'est l'homme de Dieu qui arrive là. Qu'est-ce qu'il va dire pour moi? Et chacun était sur ses gardes et c'est par lui que Dieu nous parlait. Et on faisait un peu comme les Israélites. Lui, il nous parlait. Lui, on le laissait avec Dieu et puis on le recevait de lui. Il avait des principes vraiment marquants.
Il est incontestable que cet homme avait une capacité hors du commun dans la dispensation de la parole de Dieu. Pasteur Benjamin Kissot.
Ben Aubaker est un homme exceptionnel. C'est quelqu'un qui avait ce qu'on appelle une onction de la parole. C'était un homme de la parole, de la Bible. Quand cet homme prêchait, vous pouviez l'écouter même 10 heures de temps. Il avait quelque chose. Il prêchait par révélation. Ce n'était pas quelqu'un qui étudie la Bible ou lit les documents quelque part et vient ou non. C'était par révélation. Il prêchait les Écritures, je me souviens. Une fois, j'ai suivi une de ses retraites ici à la cité-ci, où il avait prêché pendant 3 jours sur un même thème, sur un seul verset. Luc 6, 42, je ne peux pas oublier. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accomplit cela comme le maître. J'ai jamais oublié ça. 3 jours, un seul verset. Moi, je l'avais rencontré dans les années 80. Il était venu prêcher. Et c'était quelque chose d'autre. Il dégageait une vie, une notion. vraiment exceptionnel. C'est un homme de la parole. Et il a formé la plupart des ministres de ce mouvement de réveil. Parce que c'était deux mouvements apostoliques. Un dirigé par Obaker, et qui avait toute cette équipe apostolique, lui le leader. Et l'autre qui était dirigé par Mbassi, qui n'était pas un mouvement apostolique, c'était une église. Adédo.
Pasteur Benoît Tidan.
C'était quelqu'un que quand il se met à prêcher, vraiment, vous sentez l'onction de Dieu. Vous sentez que vraiment, ça, c'est Dieu qui vous parle. Il avait tous ces dons-là. Il était bien animé de l'Esprit de Dieu dans le travail.
Le docteur Isaac Woulouk l'a connu au début des années 80 et il revendique une certaine proximité d'avec lui.
Je suis entré en contact avec lui en 1983 lorsque j'obtiens mon bac et que je viens à l'université. Nous avions à l'époque créé une cellule de prière dans ma chambre d'étudiant. Et dans le cadre de nos activités de jeunes chrétiens, nous avions besoin d'être enseignés sur certains points précis. Alors, dans ce cadre, sachant que l'apôtre Samuel Obaker était un grand enseignant, nous avions à Idéa de chercher pour qu'il vienne nous enseigner pendant des week-ends. Donc, depuis 83, j'ai eu à le côtoyer à plusieurs reprises et souvent j'ai été vraiment très proche de lui. Nous avons eu à effectuer des missions dans le Grand Nord jusqu'à Maroua.
Le pasteur est jeune. Kembe reconnaît à l'apôtre Samuel Diobaker une maîtrise des saintes écritures.
Obaker était très reconnaissant sur les dons qu'il avait. Papa Obaker avait le don de la parole de Dieu. Lui et moi, on a voyagé, on a été au Congo, on a été en Côte d'Ivoire. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui. J'ai dit, il avait le don de la parole. Et il reconnaissait en bas, c'est le don des prodiges et des miracles. Ce qui nous manque aujourd'hui, il disait, si vous voulez les miracles, allez chez Mbassi. Mais si vous voulez connaître la parole de Dieu, venez chez Obaker. Il avait la maîtrise des saintes écritures.
Très vite, la popularité de Samuel Diobaker avait franchi les frontières du Cameroun. Comme le soulignait le pasteur Makembe, celui-ci a fait plusieurs pays du monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec la même aisance, la même autorité, à la limite de l'érudition. Apôtre Dieudonné Abogo.
Il était aussi populaire à l'international, au point que la plupart, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique où nous sommes allés d'ailleurs, où il a permis que de temps en temps je puisse l'accompagner. Je remercie le Seigneur par rapport à ça de m'avoir mis à côté de cet homme. Et le Seigneur l'a utilisé à l'étranger, et c'est pourquoi même lors de son deuil, plusieurs serviteurs de Dieu ont quitté réellement l'Europe, ont quitté l'Afrique pour venir l'honorer. Et après avoir été inhumé, ayant un contact réellement par d'autres personnes, il y a eu plusieurs frères blancs, plusieurs frères réellement africains, plusieurs frères réellement nordiques qui sont réellement partis de leur pays pour venir l'honorer et qui ont fait avec nous ici au Cameroun presque une semaine où nous les avons reçus. Et après avoir terminé et aller à Idéa pour voir sa tombe, sont retournés après réellement avec un bon témoignage.
Pasteur Samuel Claude Mao.
J'ai rencontré des personnes au Tchad, par exemple, quand je suis allé au Tchad pour travailler là-bas. Beaucoup m'ont témoigné de son passage. Et là, il était quelqu'un qui servait le Seigneur. Partout où il a passé, je crois que même en Centrafrique, on m'a parlé de lui, qu'il était là-bas comme un Camerounais à son temps. Il a vraiment laissé des empreintes dans le domaine spirituel, dans ce pays, à ma connaissance. Et puis, de temps en temps, il allait aux États-Unis, parce qu'il travaillait également avec une autre dénomination là-bas appelée l'Église de Dieu. Donc, il était charismatique, il était pentecôtiste vrai.
Le pasteur Zachary Tala a également voyagé avec lui. Il a son mot à dire sur la prédication de celui-ci à l'étranger.
Au niveau international, avec des multiples églises réunies, parce que dans les conférences où je partais avec Papa Obaker, il y avait au moins 50 nations et plusieurs dénominations pentecôtistes. Mais j'ai remarqué en lui, c'est ce qui m'a fait garder la doctrine, que même au niveau international, même là où il y a les blancs, ils prêchaient la même doctrine qu'ils nous prêchaient ici. Ça m'a marqué. Et j'ai dit, si à n'importe quoi, cet homme, partout où il est devant les blancs, il ne change pas la doctrine. Et ça m'a amené à garder cette doctrine. Et j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans.
L'apôtre Samuel Diobaker a beaucoup voyagé dans le monde. Mais il est parfois parti avec les autres. Révérend Alain Ruben Gouet.
Il bénéficie déjà du fait que lorsque Thiel Osborne commence à lire leur histoire dans les revues des Assemblées de Dieu, il est intéressé. Par eux, tout comme Oral Roberts, qui lisait également. Ils sont très très attachés, ils sont très intéressés par ce qui se passait au Cameroun.
Et du coup, il y a que ils vont commencer à venir au Cameroun aussi à les appeler pour aller enseigner. Mais déjà, ils bénéficient du fait qu'une des prophéties sort à l'époque et le Seigneur leur disait que il enverra ces étrangers qui viendront les prendre, non pas pour qu'eux ils soient enseignés, mais pour qu'ils aillent rendre témoignage de son action chez eux. C'est donc comme ça que très vite, on va commencer à appeler d'abord au Bakr pour aller soit du côté de la France, soit du côté des États-Unis, du côté de la Suisse ou de la Norvège, ainsi de suite. Et bien entendu, il a aussi commencé. Parce que quand il va, il parle aussi des autres et on veut les écouter. C'est comme ça qu'on invite également les autres et qui vont avec lui de temps en temps.
Le docteur Sylvestre Mutumba pense que le ministère d'Obaker à l'étranger était plus influent qu'au Cameroun.
Nous arrivons à Bordeaux en 93, cours de COEF 5, une conférence des églises. Quand ils prêchent, vous voyez, c'est leur manière d'être sensibilisés. Vous voyez les blancs rouges, ils sont touchés. Et puis, après qu'il a parlé, les gens s'approchent pour demander, mais ces choses-là, vous parlez comme si vous êtes ici, on vous a parlé. Ça veut dire qu'il avait un ministère très très influent, je peux même dire à l'étranger plus qu'au Cameroun.
Cette influence internationale a permis à la jeune église du Cameroun de recevoir de temps en temps des dons de l'étranger. Pasteur Paul Ndjoumbé.
Un ministère de cette envergure ne pouvait qu'être soutenu. D'ailleurs, que l'église de Dieu, les assemblées suisses nous ont soutenus, les assemblées de Dieu même, avec lesquelles nous avons commencé. Quand on parlait de Vernon, de Ndjongé, c'est les assemblées de Dieu. Nous avons travaillé avec eux à l'époque. Ils nous ont soutenus dans la formation, dans l'assistance, dans le conseil. Deux, nous avons été aidés par les assemblées de Dieu de la Suisse avec le révérend Buchmann. Nous avons reçu des motos, les Zundap à l'époque. Il est allé en 66, 67 en Europe. Il a ramené une Volkswagen. Après ça, il a encore eu une deuxième. Après, c'était une Toyota Corolla. Et il avait une 504. Quand il s'en servait et qu'il avait une nouvelle voiture, il cédait la précédente à l'un de ses collègues, notamment le docteur Sylvestre, qui, étant directeur de l'Institut biblique de Songeland, a eu ce soutien. Les habits venaient d'Europe.
La percée à l'international de l'apôtre Samuel Diobaker est conjoncturelle. Elle est la somme de plusieurs événements internes qui l'ont en quelque sorte fragilisé. Révérend Théophile Obaker.
Sa percée à l'international est conjoncturelle. Parce que dès lors que les autorités de régulation ont dissous la dénomination avec laquelle il exerçait son ministère depuis 1968 jusqu'en 1981, ne se reconnaissant pas dans la dynamique du retour aux sources, d'aller retrouver son alter ego André Mbassikwa, ne se reconnaissant pas dans la première démarche d'aller à l'intégration à la True Church of God de Kumba, il se retrouve esselé et le seul champ qui lui est ouvert, c'est le champ ministériel à l'international. C'est pourquoi il y va très régulièrement, il va apprendre des expériences des autres, il va par la grâce de Dieu renforcer la deuxième partie de son appel à ministère.
Son talent d'orateur, son aisance dans la compréhension et la dispensation de la parole de Dieu à la limite de l'érudition l'ont mis au-dessus de la mêlée, provoquant au sein du leadership des frictions, des frustrations, des complexes et à la fin des accusations. Apôtre Salomon Magno.
Dans la vie de Obaker, il voulait encourager tous ceux qui voulaient émerger, il voulait piétiner personne. Mais puisque un jour il disait, ce que je suis là, je n'ai pas acheté ça chez Dieu. C'est Dieu qui a accroché ces choses sur moi. Je dois faire comment? Si j'avais la capacité, vous les décrocher et vous donner. Mais je n'ai pas cette capacité. Il faut savoir qu'il était vraiment ouvert. Mais seulement au cœur de l'homme faisait les dialogues. Pourquoi c'est lui? Et d'autres fois lui dire que non, mais là où nous sommes, tu vois que si je suis avec toi, mon influence ne sera pas vivant, que moi aussi je sois un peu à l'écart, à connaître que je suis.
Des accusations et des conflits qui l'ont poussé à réorienter son ministère. Pasteur Paul Ndjoumbé.
L'une de ses frustrations, c'est qu'il n'a pas été compris par ses collègues. Comprenez de qui je parle, de son équipe apostolique d'antan. Et puis, à la dernière minute, il a dit, bon, j'ai perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, je me retourne vers les jeunes pour la transmission. Et c'est comme ça qu'il va donc créer un réseau de ministères apostoliques dans lequel vous trouverez l'apôtre Abogo, le pasteur Mbela Noé, le docteur Mutumba Sylvestre. Et puis la liste va continuer à grandir, même l'apôtre Jacques dans les dernières minutes.
nous a rejoint, le pasteur David Mayer, j'en passe, Makembe, j'allais oublier, jeune, vraiment dans l'espoir de transmettre ce qu'il a reçu. Et moi-même qui vous parle, nous avons cheminé comme ça avec Zachary Zambo, qui est à Douala. Nous avons donc été avec lui. C'était un homme qui aussi, quelquefois, s'est fâché. Il trouvait que c'était de la méchanceté pour les autres. De l'offusquer.
Pasteur Eugène Makembe.
Il était déçu par rapport à ses collaborateurs. Moi, je ne peux pas considérer que nous étions les collaborateurs de Papa Obakel, non. Nous étions, disons, ses enfants. Mais ses collaborateurs, je vais dire les autres, dont je ne vais pas citer ici, mais au moins ceux de sa trempe étaient très déçus d'eux. Et c'est pour cela que Communion et Collaboration est restée entre lui et nous, la jeune génération. Mais maintenant, quand il tombe malade et qu'il se retrouve chez le prophète, à ce moment, il était le pasteur Mbok James, alors c'est de celui qu'il est parti pour se faire hospitaliser. Et je me souviens que nous sommes arrivés là et il avait demandé à l'apôtre Abogo de se mettre à genoux. Il avait prié pour lui transmettre. Et parce que Abogo devait faire un voyage à sa place, il était invité au Congo démocratique. Donc il avait donc imposé les mains sur l'apôtre Abogo et il nous a tout demandé de travailler main dans la main. Sachez que Dieu vous a remis l'œuvre. Donc je peux dire que sur le plan de l'œuvre, de ce qu'il laisse, il n'était pas frustré parce qu'il comptait sur nous.
Samuel Diobaker s'est tourné vers une jeune génération de prédicateurs pour assurer la formation et la relève. Apôtre Dieudonné Abogo.
Papa Obakel se tourne vers nous par une révélation du Seigneur. D'après ce qu'il avait dit à chacun de nous qu'il a rencontré individuellement, il a dit réellement à chacun de nous individuellement que Dieu lui commandait de pouvoir susciter une nouvelle génération qui devrait réellement prendre cette œuvre en main et l'amener à une autre dimension. Et c'est ce qu'il avait fait. Malheureusement, c'est pas facile lorsque tout le monde ne pourrait pas avoir la même vision. On pourrait peut-être commencer à vous accuser de beaucoup de choses. Mais, à vrai dire, je vous dis qu'à chacun de ces bien-aimés avec lesquels Papa Obakel, par ce que le Seigneur avait révélé, a pu appeler, mettre auprès de lui pendant plus de 15 ans comme ça, où nous avons travaillé, lui 20 ans même, où nous avons travaillé avec lui avant son départ, lui-même a vu que ce que Dieu lui avait dit serait accompli au travers réellement de ses enfants. Et c'est ce que réellement nous sommes restés faire jusqu'aujourd'hui. Nous allons de l'avant.
L'apôtre Samuel Diobaker aura consacré les dernières années de sa vie à former la jeune génération et à travailler à l'unité du corps de Christ. Docteur Sylvestre Mutumba.
À partir des années 85, il était animé de cet esprit du corps de Christ et il a travaillé dans ce sens pour rassembler le corps de Christ et il nous a laissé un concept et même une organisation, communion et collaboration. C'était pour montrer que même s'il y a diverses églises, les ministères peuvent collaborer pour le progrès de toutes les églises, chacune restant ce qu'elle est. Il a fait ce travail de rapprochement. Il a même laissé la CEPEC aujourd'hui. CEPEC, c'est l'un des fruits de son travail de collaboration.
Un travail interdénominationnel adossé sur le concept de communion et collaboration. Pasteur Eugène Makembe.
Il avait un mouvement qu'on appelait communion et collaboration. Communion et collaboration a commencé avec une pléiade de serviteurs de Dieu, les jeunes. Mais au dernier moment, il nous avait convoqué à Edéa pour nous dire que Dieu lui a précisé qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et s'il veut s'investir, qu'il s'investit dans la jeune génération parce que tous ses collègues n'ont plus rien. C'est les thèmes qu'il avait employés. Donc vous ne pouvez pas compter suffisamment sur ces vieux-là, mais déposer tout sur la jeunesse. Ce qui fait que dans ce communion et collaboration, j'étais donc le directeur de programme. C'est moi qui organisais les programmes de séminaires. Je me rappelle à Yaoundé, on avait tenu la dernière conférence quelques 2 ans avant sa mort. Dans notre groupe, l'apôtre Abogo était son adjoint. Moi, j'étais le directeur de programme. Mélanoé se chargeait de l'évangélisation et l'apôtre Zambo s'occupait des finances et l'intercession en général. Voilà un peu cette petite équipe-là qui, sans oublier Ndongwa Edea, sans oublier l'autre que j'appelle Bon Blanc, etc. Et également, mais les plus rapprochés, c'était nous quatre. Ce qui fait qu'au dernier moment, chaque semaine, On passait des nuits de prière avec lui jusqu'à sa mort.
Ce label est l'ancêtre de toutes les plateformes du corps de Christ qui sont nées plus tard. Révérend Théophile Obakaire.
Il crée un label qui fait long feu, la communion et collaboration à partir de laquelle toutes les plateformes CPEC, UPEC et autres sont nées. Non seulement sont nées, mais participent maintenant à conduire l'Église qui est bâtie sur un fondement spirituel solide dans la dynamique de son insertion sociale au Cameroun.
Communion et collaboration, mais de quoi s'agissait-il au fond? Les explications de l'apôtre Dieudonné Abogo.
Communion et collaboration, ça veut dire qu'il n'y aurait pas entre nous des limites à la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire, notre communion va vers les frères et les sœurs qui réellement aiment le Seigneur et met en pratique sa parole. Tous ceux-là qui étaient sous ce chapeau-là, qui craignent le Seigneur et qui désirent marcher selon lui, nous devions entrer en communion avec ces personnes et collaborer avec eux en brisant toutes les barrières dénominationnelles, afin que nous puissions ainsi commencer à préparer le corps de Christ qui devrait se reconnaître dans chaque pays.
L'apôtre Samuel Diobaker a quitté la scène à l'âge de 74 ans. C'était en 2002 à Douala. Le principal héritage laissé reste les hommes qu'il a formés, les vies qu'il a influencées, la foi qu'il a laissée. Pas nécessairement des infrastructures. Pasteur Paul Ndoumbé.
Un jour, je lui pose la question, si tu meurs aujourd'hui, tu diras que tu nous as laissé quoi? Je lui ai posé ce jour-là deux questions. Et c'est moi qui le conduisais, parce que j'ai été aussi comme son chauffeur. Hein. Je l'ai servi comme un fils. Alors, il m'a dit, bon, je répondrai à tes questions. Mais d'abord, il me dit, donc, je ne vous aurais rien laissé. Je lui dis, non, papa, écoute, ce n'est pas la foi, mais un cadre juridique dans lequel nous pouvons évoluer, et aussi que ce soit du côté spirituel que matériel, financier et humain. Il est mort sans une étiquette proprement dite pour l'œuvre que Dieu a commencé avec lui dans ce pays. C'est de ça qu'il était question. C'était toute la réponse. Hein. J'ai quand même poussé le bouchon jusqu'au bout pour lui dire qu'est-ce que ma question voulait dire. Je vous épargne le reste. Mais c'était ça la réponse. Il a donc laissé cet héritage qui est là. Et ce nouveau culte qui est la sanctification, qui est la plénitude du Saint-Esprit, les choses dans lesquelles nous autres, nous restons comme garants de cette vision. Et nous l'implémentons au quotidien. Nous avons reçu la matière, la sève. Nous avons têté cette mamelle du lait véritable. Il a laissé ce grand temple que vous voyez qui n'est pas le moindre, qui est un héritage.
Le premier régime politique regardait les activités de Samuel Diobaker avec beaucoup de méfiance et de suspicion. Pasteur Benjamin Kisso.
Cela a amené le gouvernement a taxé l'apôtre Obakaker quelque part, comme si c'était encore un bassin. Le gouvernement de l'époque le prenait, n'était pas sûr que c'était l'évangile seulement. Donc c'est pour ça que cet homme de Dieu s'en va sans avoir jamais eu un arrêté ou un décret qui fonde son ministère, parce qu'il avait été stigmatisé par le gouvernement de l'époque.
18 ans après sa mort et celle de son alter ego, André Mbassikouo, la polémique sur l'identité réelle du père du pentecôtisme francophone est loin d'être évacuée. Malgré les discours apaisés et équilibristes du révérend Théophile Obakaker.
Nous, au niveau de l'Académie pentecôtiste du Cameroun, qui sommes un cabinet d'expertise, un centre de documentation et d'information, à la suite des recherches que nous avons faites et du caractère scientifique que nous avons donné à la somme des documents dont nous sommes dépositaires, nous disons avec la plus grande fermeté et l'autorité qui sied à notre statut de juriste et de scientifique que Obakaker ne peut pas prétendre être l'unique père de l'Église de réveil au Cameroun. Mbassi ne peut pas prétendre être l'unique père de l'Église de réveil au Cameroun. Il partage toute la paternité de l'Église de réveil au Cameroun parce que chacun a eu un levier sur lequel Dieu a posé les fondements de cette église.
Voilà résumé en quelques minutes des décennies de ministère bien remplis, avec des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Mais une chose est certaine, tant qu'on parlera du réveil au Cameroun, on n'effacera jamais le nom de Samuel Diobaker. C'est une voix et un nom qui ne s'éteindront jamais. C'était notre façon de lui rendre hommage.
Vous savez, frères et sœurs, il nous faut beaucoup d'humilité, il nous faut beaucoup de vérité pour retourner à ce Dieu-là. Il faut qu'un vrai pentecôtisme se manifeste encore au Cameroun. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message d'ouverture « Laissez encore le feu de Dieu tomber au Cameroun ». Laissons les simulacres de la Pentecôte. Laissons les choses préfabriquées que nous ont communiqué seulement l'esprit de division, l'esprit de bagarre, la recherche des titres. Revenons humblement. Le Seigneur Jésus dit que seul celui qui s'abaissera sera élevé.